chiens, chats et compagnie, la rubrique animaux avec le docteur vétérinaire Jean-Charles Duquesne.
Chien, chat et compagnie avec le docteur vétérinaire Jean-Charles Duquesne. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Régis.
Nous avons abordé la vermifugation de son animal pour la rentrée, mais des questions persistent. Nous allons donc faire le point. Qu'est-ce que vermifuger son animal de compagnie?
Alors la vermifugation consiste à l'administration d'un médicament antiparasitaire qui sert à détruire ou à expulser les vers de l'intestin. Pour rappel, on parle des parasites externes pour ceux qui s'accrochent à la peau, tels que les puces, les poux, les tiques. Comme on peut les voir, on y pense assez facilement. Et puis il y a les parasites internes qui vont se cacher dans l'intestin. Il est important de vermifuger les animaux domestiques pour éviter les maladies en détruisant les œufs, les larves, avant que l'infestation ne soit trop forte, car l'animal sera vraiment mal. Sinon.
Et de quoi parle-t-on quand on parle de vers?
On parle bien de vers de la même famille que les vers de terre, hein, les lombriques. Hein. Les parasites sont des vers plats tels que les ténias, et il y en a de différents types, de différentes tailles. Le plus connu, c'est le ver solitaire, hein, une bestiole qui peut faire 5 mètres de long et rester pendant des mois attachée dans l'intestin. Et puis, il y a aussi des vers ronds comme les ascaris, les ankylostomes, les trichures. Ils sont plus petits, mais tout aussi répugnants, hein, rassurez-vous. Ils s'accrochent à la paroi de l'intestin et peuvent se nourrir en réalisant des brèches dans la paroi et en piquant du sang de leur hôte à la façon d'un moustique en fait, mais à l'intérieur. Les vers sont spécifiques, ça marche un peu comme les virus. Si ceux du chien et du chat peuvent quelquefois infester les deux, ils ne sont pas transmissibles à l'homme et vice versa. Une exception cependant, sinon ça serait trop facile, hein, l'échinococcose, une espèce de petite ténia chez le chat qui passe à l'homme.
Ah oui, alors comment se passe une contamination d'ailleurs chez un humain ou un animal?
En ingérant des œufs ou des larves. Alors pour les humains, c'est en consommant une viande contaminée qui n'aurait pas été assez cuite. C'est pour cela que l'on consomme traditionnellement la viande de porc très cuite, hein, par exemple, ou que certaines religions l'ont écarté du menu. C'est aujourd'hui extrêmement rare de voir une viande contaminée avec tous les contrôles qualité sanitaire qu'il y a sur la filière. Attention tout de même à l'étranger, dans les pays un peu moins regardants. Sinon, tout le monde peut se contaminer en consommant une eau souillée au sol, un ruisseau ou dans un puits, hein, même pour les humains. Les enfants, eux, peuvent davantage se contaminer quand ils sont dans leur période de tout porter à la bouche ou quand ils font du quatre pattes. Ils peuvent se contaminer en portant les mains souillées et entre eux à la maternelle. Hein. Dans la majorité des cas, ils peuvent être infecté par un tout petit ver qui s'appelle l'oxure. Le signe qui ne trompe pas, c'est le prurit anal chez les enfants, puisque ce petit ver infeste plutôt la partie terminale du tube digestif et donc le rectum. Malgré les idées répandues, hein, l'oxure n'est pas ou très peu hébergé chez le chat, donc il n'est pas contaminant.
Et les animaux ont-ils d'autres voies de contamination?
Oui, d'ailleurs, la majorité des contaminations arrivent en consommant des petites proies porteuses, comme les oiseaux ou les rongeurs ou les charognes, donc plutôt chez le chat. Hein.
Et alors justement, on parle des vers en phase avec la lune, oui. Surtout chez les enfants, qu'en est-il?
Alors la pleine lune peut augmenter le ressenti de certains symptômes, ça c'est prouvé. Du coup, il y a de nombreuses croyances populaires très anciennes qui amplifient les phénomènes de synchronicité avec la lune. Les vers seraient des mauvaises humeurs internes, hein, qui se réveilleraient à la pleine lune. Quand on creuse un peu, suivant les régions, on trouve même des écrits racontant que le 7e enfant d'une fratrie aurait le don de guérisseur pour les autres en posant la main sur l'abdomen ou de l'huile sacrée, voire en racontant une prière les soirs de pleine lune. Bref, on stoppe là. Qui dit symptômes, pleine lune ou pas, on consulte et on vermifuge. Une autre remarque, hein, l'ail, l'oignon, l'absinthe, le houblon, le thym, le serpolet ou l'herbe, tout simplement, ne vermifuge pas votre animal de compagnie.
D'accord, et à partir de quel âge on vermifuge?
Alors chez le chiot et le chaton, dès le premier mois, et même à seulement 15 jours en cas d'infestation aux ascaris. Ensuite, une fois par mois, jusqu'à 6 mois, puis une fois par trimestre, jusqu'à 1 an. Et ensuite, une fois par an, minimum, pour les animaux qui sortent rarement. Et deux fois pour ceux qui sortent fréquemment, donc maintenant et au printemps.
Merci beaucoup Jean-Charles, qui n'avait pas fini. On recommence. À partir de quel âge on vermifuge?
Alors chez le chiot et le chaton, dès le premier mois et même à seulement 15 jours, hein, en cas d'infestation aux ascaris. Ensuite, une fois par mois jusqu'à 6 mois et puis une fois par trimestre jusqu'à 1 an. Et après 1 an, c'est une fois par an minimum pour les animaux qui sortent rarement et deux fois pour ceux qui sortent fréquemment, donc maintenant, plutôt maintenant et au printemps. Attention, hein, les molécules ne sont pas les mêmes, encore une fois, chez le chien et le chat et d'autres animaux, et certaines permettant de traiter le chien sont toxiques chez le chat et le lapin, donc vraiment lisez les précautions d'emploi.
C'est noté Jean-Charles, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.